Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, interview numéro 2, je reçois Sybille Cosnard. Bonjour Sybille.
Bonjour Myriam.
Sybille est fondatrice et présidente de la société CityLink. On en a parlé dans une interview précédente, donc chers auditeurs, n'hésitez pas à podcaster cette émission. Là, j'aimerais parler un petit peu plus des éditions CityLink, puisque vous êtes en train de mettre en place, avec des partenaires et seule la société, des éditions, des livres, des revues, vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Oui, donc on appelle ça notre observatoire urbain, en étant parti du constat il y a un peu plus de 3 ans que faisant du conseil en stratégie urbaine, on se devait d'être au courant de ce qui se joue dans l'aménagement en France aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se jouent, d'où cette idée de prendre ce temps dédié en identifiant un certain nombre de sujets chaque année, que ce soit sous forme conférence, articles, ouvrages, publications, et de le partager avec le plus grand nombre pour que ça puisse s'adresser à tous les acteurs de la ville.
Alors, ça veut dire que vous avez pour l'instant créé des partenariats avec Catherine Sabat, avec un certain nombre d'autres acteurs. Vous êtes au 3e livre, c'est ça ?
Donc, on a une collection qu'on avait mise en place chez CityLink et pour laquelle on s'est adjoint le partenariat de Catherine sur les Catherine Sabat pour les 3 premiers ouvrages, qui étaient l'inventaire des réinventés, qui était une analyse critique des appels à projets urbains innovants.
Donc, il a fait un buzz, en tout cas, dans la profession.
Qui avait eu le mérite de poser les choses au moment où on était tous le nez dans le guidon sur ce sujet-là. Ensuite, on en avait fait un autre qui s'appelait Ça déménage dans l'aménagement. Et puis, question à toi multiple sur le logement l'année dernière. Et là, on termine cette collection cette année sur le commerce, où on va publier ce dernier ouvrage dans le cadre de cette collection en partenariat avec Catherine Sabat et Pascal Madry, pour une conférence qui aura lieu le 15 décembre.
Ah bon, alors nous allons être tous juste après le CIMI.
Exactement.
Alors, sur le commerce, on a pas mal de choses à dire. Sur le logement, on va dire que tout a été dit, ou presque, même si, évidemment, chaque semaine apporte son lot de contraintes, de peurs, quelque part, parce qu'on sait aujourd'hui que sur le logement, il y a un vrai sujet de dénouer les peurs des élus et peut-être aussi des habitants, bien évidemment. Sur le commerce, est-ce que vous avez l'impression quelque part que cet ouvrage va aider les porteurs de projets de commerce à essayer de trouver une voie entre le e-commerce, le vrai commerce, le retail, les centres commerciaux, les nouvelles idées que tout un chacun peut avoir sur le fait de faire de l'aménagement à partir de ces grandes zones. Est-ce que vous allez pouvoir apporter certaines réponses ?
On l'espère, en tout cas, dans chacun de ces ouvrages. Ce qui est passionnant, c'est que parfois on prend les sujets, on part d'un peu rien, et typiquement sur le sujet commerce, moi je n'y connaissais pas grand chose, et à chaque fois ça a le mérite de planter, en tout cas de remettre de manière très pédagogique qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans le commerce, en repartant sur une partie plus historique, en interviewant là encore un certain nombre d'opérateurs, ou en tout cas d'acteurs qui œuvrent.
Ils sont déjà là depuis longtemps.
Voilà, et notamment il va avoir toute une partie dans cet ouvrage qui explique comment les politiques se sont saisies ou dessaisies de ce sujet, et de fait de mettre en perspective de ce qui se joue aujourd'hui, ou ce que l'on peut percevoir de ce qui se joue dans le commerce.
Quand même extrêmement difficile de trouver la réponse.
Et je pense que la réponse, on l'aura pas en se disant que la vérité c'est celle-ci, mais plutôt de se dire, de ce qu'on comprend, il y a ces tendances-là qui ressortent avec cette notion de proximité, de local. Mais est-ce que le local est si prégnant que cela ? La dématérialisation aussi, et
bien
de
sûr.
Toute manière, c'est un fait. Donc ce serait probablement dans des propos plus de points de vigilance et de tendances que l'on perçoit, que de grands enseignements en disant c'est comme ça que ça doit se passer. Surtout qu'on a toujours un temps de retard dans ce qu'on est déjà en train de dire du commerce.
Voilà, évidemment, surtout du commerce, puisqu'on sait très bien que les acteurs sont quand même très très réticents à changer leur mode de réflexion ils ont l'impression, évidemment, et sans être critique, que effectivement ils ont cette connaissance, puisque pendant des années et des années, ça fait à peu près, je sais pas, 30, 40, 50 ans, qu'on n'a pas beaucoup évolué sur la pratique entre le vendeur et le consommateur. C'est maintenant que ça change vraiment.
C'est maintenant que ça change. Donc, les résultats à découvrir au mois de décembre.
Donc, vous tricotez cette... ça, c'est l'ancienne collection. Vous allez tricoter une nouvelle collection.
Alors, les thématiques. En complément de cela, donc, on a d'autres initiatives qui paraissent. On a réalisé une conférence avec publication sur le fait de réconcilier pour mieux reconstruire, où le constat était de se dire que depuis plusieurs mois, on écoutait et les opérateurs immobiliers et les collectivités, les uns disant qu'ils n'étaient plus reçus dans le bureau des élus et les autres nous disant que ce n'était pas qu'ils ne voulaient pas construire, mais ils voulaient entendre des choses ou voir des choses différentes. Donc on a mis tout ce petit monde-là autour de la table pour que chacun essaie de s'exprimer sur le sujet.
Et alors, vous avez eu l'impression que la conférence a débloqué certaines choses ?
En tout cas, les choses ont été dites. Donc c'est déjà peut-être un premier pas et j'ai trouvé que aussi les élus qui s'exprimaient...
Elle peut être écoutée en podcast ? Racontez-moi un petit peu.
Non, parce qu'elle n'a pas été enregistrée, mais par contre on a une publication qui relate, parce qu'on a tout ça été lié à une enquête qu'on avait produite, donc le support est accessible depuis notre site internet.
D'accord, donc évidemment j'incite les auditeurs à aller sur le site internet de CityLink pour justement pouvoir télécharger cette publication. Quelles sont les futures éditions, quelles sont les futures programmations de sujets, de thématiques que vous voulez mettre en avant ?
Alors, en novembre, va paraître un livre blanc sur la prise en compte de tous les publics dans la conception des projets d'aménagement. Et non, ayant fait le constat que chacun disait vouloir faire une ville pour tous, et notamment les élus, mais une fois qu'on s'est dit ça, personne ne le fait. Donc, on a ou bien des travaux de recherche très fournis, mais que tout le monde ne lit pas forcément, ou qui ne sont pas accessibles à tous.
Ou, c'est-à-dire, vous décryptez le langage, vous essayez de le faire petit peu plus accessible.
On a toute une partie, parce que quand on dit que la ville n'est pas accessible à tous, déjà, c'est de se dire de quel public on parle et d'expliquer pourquoi il n'y a pas cet égal accès à la ville. Donc il est question des enfants, des seniors, des personnes en situation de handicap, des femmes. Et donc on ne parle pas que des femmes, mais on les met aussi dans le dispositif. Et l'idée, c'était d'avoir cette pédagogie et d'expliquer pourquoi tous ces publics-là n'ont pas un accès égal.
Et après, alors pourquoi les publics de femmes sont différents des publics d'hommes ?
Les publics de femmes sont différents des publics d'hommes parce qu'elles n'ont pas un accès égal dans certains endroits de la ville. On a parlé beaucoup d'insécurité dans certains endroits et c'est vrai. Et donc ça, après, on pourrait développer le fait que l'accès n'est pas égal parce que la ville a été faite par et pour les hommes. C'est un autre,
voilà, mais c'est un autre sujet, mais c'est intéressant et on pourra en débattre. Et justement, j'incite nos éditeurs à nous écouter à partir de l'année prochaine. Je vous raconterai une histoire justement d'urbanisme genré, sans mettre cela spécialement en avant. Mais à un moment donné, comment fait-on pour, s'il y a des publications, pour les donner à lire à tout le monde, sortir de la profession, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire des petits fascicules, des petits documents qui sont lisibles par des acteurs qui ne sont pas nécessairement les acteurs habituels de la ville ?
La majorité quand même des travaux que l'on produit sont pour ceux qui travaillent, qui font la ville, mais dès lors qu'ils peut y avoir des sollicitations, et notamment auprès des publics plus jeunes. Il m'est arrivé de faire des interventions auprès de collégiens. Alors, on était en époque confinée, donc c'était par écran interposé, mais où m'avait interrogé sur ce qu'était que l'urbanisme et qu'est-ce qu'on produisait comme type de publication. Et donc, on s'adresse aussi, dès qu'on le peut, à des publics qui ne sont pas forcément ceux qui sont déjà en place.
Oui, non, mais justement, je voulais parler de ça, parce qu'effectivement, les collégiens sont peut-être ceux qui aussi participent à cette ville différente, dans un sens ou dans un autre, puisque leur mobilité, leur anticipation de la ville, leur usage de la ville est très dynamique, nouvelle, elle est effectivement constamment en évolution. Chaque jour est un nouveau jour. Quand on sort du collège, on est avec les copains, on fait du sport, on fait pas du sport, on est en relation avec... Justement, cette parole-là, est-ce qu'elle est entendue ?
Pas assez. pas assez, et même nous, je trouve qu'on, quand je dis nous, c'est collectivement, on devrait être plus mobilisés, et par les collèges et nous, peut-être prendre plus d'initiatives aussi pour aller parler ou échanger sur ce sujet de la ville. Mais je trouve qu'on a aussi encore une grande responsabilité et qu'une tâche encore assez importante pour convaincre ou amener beaucoup de pédagogie au sein même de notre milieu de l'aménagement, avec tous les acteurs qui sont dans ce milieu-là et où on a beaucoup encore à échanger et à convaincre sur ces différences.
Oui, parce que je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a une vulgarisation évidente de la médecine. Hein, et je, le mot vulgaire n'est évidemment pas un mot péjoratif. C'est de dire que quelque part, on parle de la médecine au journal télévisé. La médecine est grâce ou parce qu'il y a eu le confinement et la pandémie est devenue un vocabulaire, est devenue un médium très 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 couru par tout le monde. Alors que l'aménagement, qui pour le coup, la ville et pour chacun, n'est pas rentré dans la sphère des médias. Comment ça se fait ?
Parce que ce métier est méconnu. Je me tonne toujours à chaque fois qu'on me demande ce que je fais comme métier en disant que je suis urbaniste, et les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Donc on doit réexpliquer. Je pense que cette volonté aussi de faire ce travail d'observatoire urbain, c'est de contribuer modestement à faire comprendre ce qu'on fait, qu'est-ce qui se joue dans la ville, et que ce soit sur les sujets d'accès à tous les publics, que ce soit sur toutes ces consultations d'appel à projets urbains innovants.
Oui, parce que le mot appel à projet urbain innovant, comment sait-on qu'on est dans l'innovation, puisque l'innovation est quelque chose évidemment complexe. Donc la réponse, elle n'est pas unique.
Elle n'est pas unique, et c'est bien parce que là, ça sera le dernier ouvrage qu'on publiera de cette session 2021, il y en aura encore d'autres 2022, qui va être de regarder ce qu'ont généré ces appels à projets urbains dits innovants 7 ans après, puisque le premier était lancé en 2014. Mmh. Et une des premières tâches qu'on s'est attelé à faire, c'est d'identifier qu'est-ce qui faisait ou qu'est-ce qui définissait un appel à projets urbains innovants. Et on s'aperçoit que l'innovation, mais on est en train de regarder très concrètement dans les réponses de projets qui sont en cours.
Si... Entre l'avant, l'après, la réflexion initiale et l'évolution du projet 7 ans après.
Donc on est en plein dans ce regard-là, mais il est certain que l'innovation, elle a plus été portée sur le dispositif
de fabriquer
que potentiellement sur le produit dit innovant.
D'accord. Bah écoutez, merci en tout cas de cette interview. Vraiment, j'étais conquise par ces futurs ouvrages. Et chers auditeurs, je vous incite à regarder sur le lien, le site
Link. On va aussi mobiliser un certain nombre de canaux de diffusion pour que chacun puisse prendre connaissance de tous ces travaux-là.
Très bien. À bientôt, chers auditeurs. À bientôt, Sybille.
Merci, Myriam. Au revoir.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.